Mondial Sport sur RFI. Christophe Diremzian.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Mondial Sport, honneur aux dames du football et aux impitoyables lyonnaises ce soir. Les lyonnaises qui n'ont laissé aucune chance au FC Barcelone en finale de la Ligue des Champions féminines. Victoire 4-1 pour un sixième sacre et un quadruplé d'affilée inédit. Retour sur ce match à sens unique dans un instant avec l'un de nos envoyés spéciaux, Eric Mamrut. Le Bayern Munich boucle un septennat à la tête de la Bundesliga. Septième titre de suite pour les Bavarois qui ont conclu l'affaire aujourd'hui par un carton 5-1 face à Francfort avec notamment début de Franck Ribéry et d'Ariane Robben en guise de cadeau d'adieu. Fin de l'histoire entre Massimiliano Allegri et la Juventus Turin. Nous tenterons de comprendre pourquoi avec Matteo Cioffi. Supporter la Côte d'Ivoire à la CAN 2019, ça se mérite. Découvrez comment se préparent, y compris physiquement, les futurs heureux élus rigoureusement sélectionnés pour faire bientôt le voyage en Égypte. Et puis la nouvelle aventure d'Alain Porte dans le handball africain. L'ancien sélectionneur de la Tunisie vient à la rescousse de l'Algérie, mal en point depuis quelques années. Vous l'entendrez en fin d'émission nous expliquer pourquoi et comment il entend relever le défi. En matière de football féminin de club, malgré la concurrence qui s'aiguise d'année en année, il n'y a toujours pas mieux qu'elle. Les Lyonnaises ont donc conservé avec autorité pour la quatrième fois d'affilée leur titre de championne d'Europe, le sixième au total, en dominant l'une des valeurs montantes, le FC Barcelone 4-1 en finale de la Ligue des Champions féminines à Budapest. Finale que vous avez pu suivre en intégralité sur RFI avec Eric Chorin et vous, Eric Mamrut. Bonsoir.
Bonsoir Christophe, bonsoir tout le monde.
Les Lyonnaises étaient données favorites de cette finale. À l'arrivée, elles ont logiquement fait respecter leur statut.
Oui, sur le papier, il n'y avait pas photo entre les deux équipes avant cette rencontre. Lyon était triple tenant du titre et disputait sa huitième finale de Ligue des Champions en 10 ans. L'OL invaincu cette saison en 35 matchs. Le Barça, lui, deuxième de la Ligue, avait connu 4 défaites et atteignait pour la première fois de sa jeune histoire la finale de la compétition. Un écart qui s'est soldé par une première période parfaite des Lyonnaises avec 4 buts inscrits dès la première demi-heure. Leur impact physique, leur technique, leur expérience à ce niveau ont fait mal aux Catalanes qui ont pris 4 buts d'ailleurs quasiment identiques, les 4 sur des centres avec à la conclusion Jennifer Marossan pour l'ouverture du score à la 5e minute, puis Ada Egerberg, la Norvégienne, au 14e, 19e et 30e minute, 4-0 à la pause avec un Noël tueur chirurgical. La finale était pliée, les Lyonnaises pouvaient ensuite tranquillement contrôler la seconde période et s'offrir même le luxe de rater quelques occasions franches, méritantes. Ce sont les Catalanes en fait qui trouvaient la faille et sauvaient l'honneur en toute fin de match par Asisat Oshoala, la Nigériane, entrée en cours de jeu. 4-1, score final. Lyon réalise un quadruplé inédit et entre encore plus dans l'histoire avec une 6e Ligue des Champions. C'est un record et ça compte pour la capitaine lyonnaise Wendy Renard.
C'est important quand on a l'opportunité de continuer à écrire notre histoire. Ce qui est beau, c'est qu'on démonte d'année en année, malgré il y a des départs, malgré il y a des arrivées, changement de staff. On a toujours soif, on a toujours faim. Donc voilà, on est une équipe, on le démontre. Et ce soir, je pense que voilà, c'est mérité et sur l'ensemble du match... C'est pas volé. Même si c'est le sixième, c'est toujours pareil parce que chaque saison, comme j'ai dit, elles ont une saveur particulière et chacune a sa propre histoire. Donc voilà, aujourd'hui c'est fini, l'année prochaine il faudra compter sur nous.
Lyon, vainqueur des plus logiques donc de cette finale, mais que se serait-il passé si la Barcelonaise Toni Dugan n'avait concrétisé sa grosse occasion de la 4e minute? Le score était alors 2-0-0. Son entraîneur Luis Cortés, eh bien, il s'est posé cette question en conférence de presse après la rencontre. Luis Cortés.
Cela aurait été bien de savoir ce qui se serait passé si on avait marqué les premiers. Cela aurait été un tout autre match, j'en suis persuadé. Mais bon, que pouvait-on faire face à un adversaire qui a mis 4 buts sur ces 6 premières occasions, Lyon a rarement été aussi efficace et en tout cas ne l'avait pas été contre nous l'an dernier en quart de finale. Donc on est un peu amer mais pas triste car Lyon est une équipe incroyable avec un budget énorme. C'est ça le niveau de la Ligue des Champions. Cela montre à quel point c'était difficile d'arriver en finale et donc valorise notre parcours. Maintenant, on doit s'en servir comme apprentissage pour continuer à progresser. On a en tout cas l'envie de revenir l'an prochain en finale pour défier Lyon à nouveau.
Et ya con ganas de volvernos a encontrar el año que viene.
Lyon reste donc encore et toujours sur le toit de l'Europe du football féminin, Eric, et il y a des raisons à cela.
Oui, d'abord, Lyon, via son président, Jean-Michel Aulas, investit très tôt, dès 2004, dans le football féminin. Lyon l'a rendu professionnel rapidement, a engagé les meilleures joueuses du monde, les Hegerberg, le Sommer, Wendy Renard et compagnie. Mais cela ne fait pas tout. D'autres ingrédients expliquent cette domination qui dure encore et toujours. C'est ce que nous explique l'entraîneur rhodanien, Reynald Pedros.
Et depuis de nombreuses années, c'est une équipe qui travaille beaucoup, qui se remet en question à chaque match, qui ne fait jamais preuve de suffisance vis-à-vis de son adversaire, qui respecte toujours son adversaire et qui exploite au maximum ses qualités. On a beau avoir de très grandes joueuses de football, mais ça ne suffit pas. Il y a un état d'esprit, il y a une envie collective, que ce soit de la part des joueuses ou de la part du club, d'aller toujours chercher le meilleur, c'est-à-dire les trophées. Comme on dit tout le temps aussi, l'appétit vient en mangeant. On gagne des titres, on a envie encore d'en gagner, puis on a encore envie d'en gagner. Je pense que c'est ça qui nous fait avancer aussi, c'est de gagner des titres.
Lyon réalise donc le triplé cette saison. Coupe, championnat, Ligue des champions. Lyon qui signe aujourd'hui sa victoire la plus confortable dans une finale de Ligue des champions. Un constat s'impose donc, Christophe. La concurrence qui certes progresse n'est pas encore au niveau.
Merci beaucoup, Eric Mamrut, en ligne de Budapest. Ils avaient perdu l'habitude d'attendre jusqu'à la fin, les supporters du Bayern Munich, mais ça y est, c'est fait. Le club bavarois a fini par décrocher le 29e titre de son histoire en Bundesliga, le plus compliqué à obtenir de ces dernières années. 7e sacre d'affilée savouré devant le public de l'Allianz Arena et sur lequel on revient avec vous, Julien Méchaussi. Bonsoir.
Bonsoir Christophe.
Un nul avec Francfort aurait suffi au Bayern pour tuer le maigre suspense vu leur marge de manœuvre vis-à-vis du Borussia Dortmund, mais il y a mis la manière, victoire 5-1, avec notamment les toutes dernières contributions de deux joueurs emblématiques du club, Franck Ribéry et Arjen Robben.
Oui, hein, le Bayern qui se présentait aujourd'hui avec 2 points d'avance sur le BVB. Et les Bavarois n'ont pas tremblé. Une après-midi parfaite hein, avec l'ouverture du score signé Kingsley Coman. C'était dès la 4e minute. On a eu droit à 3 toutes petites minutes de suspense lorsqu'un autre Français, Sébastien Haller, a égalisé pour l'Eintracht. Mais dans la foulée, hein, la machine du Bayern s'est mise en route avec des réalisations de David Alaba et Renato Sanchez. Et à 3-1, c'est le moment que Niko Kovac a choisi pour faire honneur à 2 légendes du Bayern dont c'était le dernier match de Bundesliga cet après-midi. Franck Ribéry qui a marqué un superbe but 10 minutes après son entrée. Il a été imité 5 minutes plus tard par Arjen Robben pour le 5-1 et on ne pouvait vraiment pas rêver un plus bel après-midi pour le Bayern et surtout pour ces deux joueurs. Robben, c'est 10 ans d'histoire du Bayern alors que Ribéry, lui, termine sa 12e saison à Munich, 12 saisons et 9 titres de champion. Franck Ribéry, c'est tout simplement de toute l'histoire de la Bundesliga le joueur qui a gagné le plus de titres de champion devant des grands noms, hein, devant Kahn, Scholl, Lahm et Schweinsteiger. Une vraie légende, Christophe.
Alors pendant ce temps, le Borussia l'emportait 2-0 à Mönchengladbach, mais pour rien donc. Mais si l'équipe doit avoir des regrets, Julien, c'est sûrement pas sur ce match, mais surtout sur une seconde partie de saison ratée.
Non, le BVB n'a pas perdu le championnat cet après-midi. Dortmund qui s'est un peu sabordé tout seul hein, cette saison. Le club de la Roue a raconté jusqu'à 7 points d'avance sur le Bayern. Il a été leader pendant 20 journées et on y a vraiment cru hein, que les joueurs de Lucien Favre allaient pouvoir briser cette hégémonie du Bayern, notamment après cette victoire 3-2 lors des matchs allés. Mais les jaunes et noirs hein, ont laissé filer les points, souvent d'ailleurs après avoir mené au score. Et puis on sera rappelle, hein, est venue cette lourde défaite 5-0 à Munich, ce qui a définitivement coupé les jambes de Dortmund. Mais faudrait surtout pas minimiser la saison de Dortmund, hein, 76 points en 34 journées. Et puis surtout, hein, Lucien Favre, l'entraîneur qui a su très vite former une vraie équipe avec un superbe football pour sa toute première saison sur le banc à Dortmund. Et puis ces jeunes hein, qui ont explosé, on pense surtout à l'anglais Jadon Sancho, qui a même pas encore 20 ans. Marco Reus, meilleur joueur de Bundesliga, enfin repositionné en numéro 10. Et puis peut-être la plus belle prouesse du magicien Lucien Favre, magicien tant plus personne n'y croyait ici. Il a su redonner vie à Mario Götze en perdition depuis le Mondial 2014 au Brésil. Bref, un plein de belles choses du côté de la Roue qui donne vraiment envie de revoir le BVB dès la saison prochaine.
Un petit mot du 4e et dernier qualifié direct pour la Ligue des Champions. C'est finalement le Bayer Leverkusen qui empoche le billet.
Oui, il restait plus qu'un ticket, hein, vu que le RB Leipzig était déjà assuré de finir à la troisième place. Un Bayer sur le fil et une qualification en Ligue des Champions arrachée lors de cette dernière journée, grâce à une belle victoire sur le terrain du Hertha Berlin 5-1 et les défaites conjuguées donc de Gladbach face à Dortmund et de Francfort à Munich. Paris réussi, hein, pour le Bayer qui a fait appel en cours de saison à l'ancien entraîneur de l'Ajax, Peter Bosz. Le Bayer importé par le nouveau joyau du foot allemand, retenez bien ce nom, hein, Christophe, Kai Havertz, 19 ans et 17 buts cette saison.
Julien Méchaussi en direct de Berlin, merci beaucoup. La Ligue 1 à présent avec la 37e et avant-dernière journée, direction le Parc des Princes pour la dernière sortie à domicile du Paris Saint-Germain cette saison et donc l'occasion pour l'équipe de soulever enfin son unique trophée de la saison, le fameux hexagone, symbole du titre gagné il y a près d'un mois. Hugo Moissonnier est en direct du Parc. Hugo, bonsoir.
Bonsoir Christophe, bonsoir à tous.
Trophée remis dans le cadre d'une célébration qui est sur le point de se terminer, je crois, sur la pelouse du Parc.
Exactement, les joueurs viennent d'achever leur tour d'honneur avec leur hexagone à la main et ils regagnent tranquillement les vestiaires. Certains sont accompagnés de leur famille. Alors je vous raconte un petit peu ces festivités. Juste après la rencontre contre Dijon, le Parc des Princes a été plongé dans le noir. On a suivi un spectacle de pyrotechnie qui nous en a mis plein les yeux et plein les oreilles également. Et puis, les joueurs sont arrivés conjointement. On pensait qu'ils pourraient arriver un par un. Et non, ils sont arrivés conjointement sur le podium, à peine précédés de quelques secondes par leur staff technique. Et ils ont soulevé ensemble l'hexagone dans une bonne ambiance. Ensuite, ils sont allés communier. Ils ont entamé un tour d'honneur en passant pas mal de temps devant le virage Auteuil, là où se trouve leurs plus fervents supporters, leurs ultras, et les noms de chaque joueur ont été scandés par ces ultras, et notamment celui d'Eric Maxime Choupo-Moting, le Camerounais. Bon, ça s'est plutôt bien passé, l'ambiance était plutôt à la fête, les échecs en Coupe Nationale et surtout en Ligue des Champions n'ont pas trop pesé dans l'ambiance post-match ce soir au Parc des Princes.
On n'oublie pas, Hugo, le match quand même de la soirée, hein, au Parc, qui a fait monter cette ambiance. Le PSG qui a enfoncé Dijon, qui joue sa peau en Ligue 1, en l'écrasant 4-0.
Oui, en maîtrisant totalement son sujet. Ça a été finalement assez facile et ça a démarré très vite avec Di Maria, buteur, dès la quatrième minute, dès la troisième minute. Une minute plus tard, il dépose un centre sur la tête de Cavani en fin de première période. C'est Kylian Mbappé qui alourdit le score, 3e réalisation, 31e réalisation pour lui, et puis une 32e en début de seconde période, 4-0 pour le Paris Saint-Germain qui a totalement maîtrisé son sujet. Ça, c'est un très faible adversaire, Dijon, qui devra batailler pour espérer se sauver lors de la prochaine journée. Le PSG, lui, essaiera d'achever sa saison sur une nouvelle note positive du côté de Reims.
Merci beaucoup Hugo Moissonni en direct du Parc des Princes pour les places européennes. Tout est désormais joué. Ligue des Champions est définitivement acquise pour Lille, deuxième, et qui a balayé Angers 5-0 grâce notamment à un doublé de Nicolas Pépé. Lyon assure sa troisième place en dominant Caen 4-0. Enfin, Saint-Etienne ira bien en Ligue Europa après sa nette victoire sur Nice 3-0. En bas de tableau, Monaco se donne un peu d'air en battant Amiens 2-0, mais la Principauté 16e n'est pas encore tirée d'affaires. Un détour par l'Italie, où la Juventus Turin, où le cinquième Scudetto est obtenu récemment, le cinquième Scudetto de suite de Massimiliano Allegri, qui sera le dernier de la série, puisque les chemins de la vieille dame et de son entraîneur se séparent. La fin de l'histoire a été annoncée hier, à la grande surprise des observateurs, et expliquée cet après-midi lors d'une conférence de presse où vous étiez, Matteo Cioffi. Bonsoir.
Bonsoir Christophe.
Beaucoup de monde y a assisté à cette conférence, toute l'équipe, le président Andrea Agnelli, un Massimiliano Allegri ému d'ailleurs au moment de parler de son départ qu'il n'a pas vraiment voulu.
Oui, en effet, il faut savoir que déjà à partir de la première question que les journalistes lui ont posée, Allegri a eu du mal à parler car très ému. Plusieurs fois, il a dû s'arrêter pour boire un verre d'eau et retrouver le calme. Et derrière cette émotion, il a préféré éviter les polémiques en se limitant à déclarer qu'il acceptait en toute sérénité le choix du club de se séparer. Il a donc joué la carte de la diplomatie, l'hypothèse la plus plausible et que ce divorce a été voulu aussi par le même Allegri après s'être aperçu qu'autour de lui, la confiance commençait à fléchir. Au lendemain de l'élimination en Ligue des Champions face à l'Ajax, le technicien aurait voulu présenter son plan pour rebâtir l'équipe, chose qui aurait soulevé les doutes de quelques dirigeants de la Juve qui ont commencé à le voir comme un concurrent à domicile. En même temps, une bonne partie des tifosi de la Juve a fait monter son mécontentement vers le coach, considéré responsable de la faillite européenne. Allegri s'est transformé tout d'un coup en un bouc émissaire, chose inacceptable pour lui qui reste l'entraîneur le plus gagnant de toute l'histoire de la Juventus.
Question inévitable maintenant, Matteo, vers qui la Juve peut-elle se tourner pour envisager la succession ?
Alors, la liste des prétendants à la succession semble longue et incertaine. À la question sur qui sera le futur entraîneur de l'équipe, le président André Agnelli, aujourd'hui en conférence de presse, a refusé de répondre et même de donner un seul indice. Faut se fier donc des rumeurs qui parlent d'un possible derby 100% italien. D'un côté, Maurizio Sarri, de l'autre, Simone Inzaghi. Avec le deuxième favori, car l'actuel entraîneur de Chelsea a confirmé de vouloir rester à Londres à tout prix. Inzaghi pourrait donc représenter un intéressant pari, un peu comme l'avait été en quelque sorte Max Allegri il y a 5 ans lorsqu'il est arrivé à Turin. Autre nom qui circule, celui de l'Argentin Pochettino, mais qui coûte assez cher. Même discours pour Pep Guardiola qui hier a démenti de vouloir quitter le Manchester City. Et puis encore, Siniša Mihajlović, apprécié par les dirigeants du club turinois. Et attention, on parle même de José Mourinho. Mais ce choix pourrait soulever une révolution chez les supporters de la Juve qui depuis toujours considèrent le Special One un vrai ennemi.
Merci beaucoup Matteo Cioffi. Ajoutons qu'un autre champion national, Manchester City, aura fait la totale en Angleterre puisque les joueurs de Pep Guardiola ont remporté la Cup aujourd'hui en écrasant Watford 6-0. Les Citizens sont donc réalisé un triplé inédit outre-Manche chez les hommes avec la Première Ligue et la Coupe de la Ligue. En Afrique avec Antoine Grenier. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Christophe.
On va commencer par le Mali. Si le football national là-bas est à l'arrêt, la sélection des moins de 20 ans, elle, prépare sa Coupe du Monde. Dans une semaine, les Aiglons affronteront le Panama pour la première journée de leur groupe E mondial. Un rendez-vous dans lequel les Maliens rêvent de briller à nouveau.
Et pourtant, leur préparation n'aura pas été optimale. Leur attaquant vedette, El Bilal Touré, n'a pas encore reçu de visa pour la Pologne. Le Mali n'ayant pas de représentation diplomatique en Pologne, le joueur est à Dakar pour essayer d'obtenir le précieux sésame qui lui permettrait de se rendre à Bidoche, le lieu où joueront les Maliens. Mais malgré cela, les Aiglons espèrent imiter leur glorieuse aînée de 2015, génération qui avait pris la troisième place du mondial en Nouvelle-Zélande. Hadjid Ramé, l'attaquant malien en rêve.
J'ai déjà participé à une Coupe du Monde des moins de 17 ans qui s'est déroulée en Inde en 2017. Les moins de 20 ans, ça c'est une autre challenge. Quand même, nous, on va essayer de tout faire dans cette Coupe du Monde pour faire mieux. Même si le Mali est battu en demi-finale à la Coupe du Monde de moins de 20 ans passés, ils ont été troisième. Quand même, nous, on va essayer de relever le défi.
Le rêve malien, c'est aussi d'imiter la meilleure performance africaine. La dernière finale remonte à 2009 et au sacre du Ghana d'André Ayou. Mamoudou Kané, le sélectionneur malien, en est, lui, à sa troisième Coupe du Monde. À 45 ans, le technicien vise toujours plus haut.
Participer à deux phases finales, phase étant joueur, une deuxième phase finale étant entraîneur de gardien en 2011. La première, c'est en 89. Si la troisième, ça va arriver dans peu de temps. En tant que jeune, tu ne mesures pas trop l'importance et l'ampleur parce qu'on est jeune. Là, aujourd'hui, j'ai envie de faire quelque chose que personne n'a fait. Montrer qu'on peut faire quelque chose et il faut se fixer un objectif très haut et atteindre le sommet. Pour atteindre le sommet, il faut se mesurer à des grands et on va le faire. On représente toute l'Afrique, plus précisément le Mali, et on va essayer de hisser les drapeaux maliens au firmament du football mondial.
Mamoudou Kané, le sélectionneur des juniors maliens au micro de Mamadou Kaloga. Pour rappel, le Mali est versé dans le groupe du Panama, de l'Arabie Saoudite et de la France où évolue Moussa Sylla, le petit frère du capitaine du Mali senior à la CAN 2017, Yacouba Sylla.
On parle un petit peu de foot féminin avec le tournoi de l'UFO à Béa, Abidjan qui s'achève sur une grosse déception pour la Côte d'Ivoire.
Les Ivoiriennes battues au tir au but en finale par le Nigeria. Un partout, c'était le score final. 5 tirs au but à 4. Les Nigérianes succèdent ainsi au Ghana, vainqueur l'an passé. Les Ghanéennes qui ont, elles, décroché toujours au stade Robert Champroux la troisième place en dominant le Mali au tir au but 8-7. Le score était de 0-0 à la fin de la rencontre.
On reste en Côte d'Ivoire. La Coupe d'Afrique des Nations, vous le savez, c'est dans un peu plus d'un mois. Les listes tombent petit à petit. Les sélectionneurs affinent leur programme de préparation. Et en Côte d'Ivoire, justement, si la présélection sera annoncée le 23 mai, les supporters des éléphants, eux, sont déjà sur le pied de guerre.
Et comme les footballeurs, ils s'entraînent avant la Coupe d'Afrique. Entre 100 et 200 supporters des éléphants se retrouvent deux dimanches par mois pour préparer le voyage en Égypte. Entre entraînements sportifs et musicaux, la préparation est tout ce qu'il y a de sérieux, même si certains ne feront pas partie du voyage. Yoann Gourlet les a rencontrés.
8, 9 et 10. On change.
On change.
La main gauche sur le dos. La main gauche.
Sur une petite piste d'athlétisme en dur d'Abidjan, plus de 120 personnes en t-shirt orange s'agitent en musique. Course à pied, étirement, non, ce ne sont pas des marathoniens, mais bien les futurs supporters des éléphants durant la CAN. Gérard Sémian vient d'arriver et joue le jeu.
Ce sont les étirements pour se mettre en jambes, en forme. Et nous faisons le sport par rapport à la santé et nous nous préparons aussi par rapport à la CAN en Égypte.
Se mettre en jambes et être discipliné, ce sont les règles pour faire partie de la sélection. Gérard le sait, sur les 200 personnes du comité, ils ne seront qu'entre 100 et 150 à faire le voyage.
Si tout est dans la main de Dieu, si je suis sélectionné, je pars en Égypte.
Alors comment vous allez faire pour être sélectionné? C'est quoi les critères?
C'est le travail. Quand on vous demande de faire quelque chose, il faut le faire. Il faut bien se donner à l'entraînement, à la préparation, c'est ça. Il faut se donner de tout cœur.
Mamadou Cissé, l'imposant animateur du jour, motive ses troupes. Pour lui, les supporters doivent se comporter comme les joueurs.
Donc on fait les mouvements, tout ce que les joueurs font, c'est ce qu'on fait. Tout à l'heure, tu vois, on va commencer le tam-tam. Mais il faut faire le gym d'abord, le sport beaucoup, avant de commencer l'animation.
Après le sport vient donc la musique. Les batteurs et le tam-tam donnent le rythme, suivi par une centaine de castagnettes ivoiriennes. Alexandrine Siaka est en première ligne.
Une castagnette, ouais. C'est l'instrument principal avec lequel on fait l'animation. C'est nous qui donnons les pas.
C'est le dernier.
Nous donnons les pas et la chorégraphie est surtout basée sur nous. Parce que c'est l'image même de la Côte d'Ivoire. Ce sont, c'est-à-dire que les pas viennent surtout de toutes les régions, de toutes les ethnies de la Côte d'Ivoire.
Niezoua Dagrou est le chef des batteurs depuis 1986. S'il part en Égypte, ce n'est pas pour faire du tourisme.
Ce n'est pas de la plaisanterie qu'on va faire en Égypte. Ce n'est pas les loisirs. On ne va pas pour visiter quelqu'un. On va uniquement pour prendre la coupe, pour venir en Côte d'Ivoire avec ça. On a Nicolas Pépé, on a les bons joueurs. Nos joueurs brillent en Europe. Et on a les meilleurs stars en Europe. Pourquoi pas récupérer la coupe?
Le président Gaston Laouy l'assure, 90% des supporters n'ont pas de travail ou vivent chichement du monde informel. Ce voyage est donc une chance, mais il reste intransigeant sur une chose.
Le respect, c'est d'abord important. Ne pas insulter quelqu'un. Mais si tu as des problèmes là, il faut savoir exposer. Ne pas critiquer. Ne pas frapper des gens sur les stades. Ça, c'est important. C'est ça qu'on appelle bon supporter. Surtout la discipline.
Et comme les joueurs, certains ne seront pas retenus par le ministère des Sports. Mélanie Pascal Zaipo, fidèle parmi les fidèles, relativise.
Il y en a qui sont déçus. Mais comme on le dit en Côte d'Ivoire, découragement n'est pas ivoirien. Même si vous n'êtes pas sélectionné, vous renforcez et vous devenez supporter des supporters.
Une chose est sûre, dans les stades égyptiens ou en Côte d'Ivoire, les supporters entonneront avec la même ferveur les chants des éléphants.
En avant, chers éléphants, en avant, fiers ivoiriens, et debout face à l'adversaire.
Youen Gourlet, Abidjan, RFI.
Les éléphants n'ont peu de rien.
Il était temps que le handball algérien soit remis sur de bons rails. Après avoir longtemps compté sur la scène africaine, la sélection nationale a beaucoup perdu de sa superbe depuis son sacre à domicile lors de la CAN 2014. Il y a bien eu le Mondial 2015 ensuite, mais depuis, plus grand chose, le début d'une lente déliquescence qui a fait plonger les Verts dans la hiérarchie continentale. C'est pour rouvrir des perspectives plus réjouissantes que la fédération a donc décidé de faire appel à un technicien qui a fait ses preuves en Afrique, Alain Porte, l'ancien sélectionneur de la Tunisie, double vainqueur des CAN 2010 et 2012, ex-patron de l'équipe de France féminine, prendra ses fonctions le 1er juillet et pour 2 ans, après quelques mois passés dans un club qatarien. Objectif prioritaire, renvoyer l'Algérie au Mondial en 2021 en Égypte via la CAN 2020 en Tunisie. Défi relevé par le technicien de 57 ans qui ne s'est pas décidé sur un coup de tête.
Ça faisait une petite paire d'années qu'on était en contact et que les dirigeants algériens m'avaient testé pour savoir si j'étais motivé pour prendre cette sélection. Ce qui m'a motivé, c'est que je connais les joueurs, je connais leur mentalité. globalité, leur combativité, puisque je les ai rencontrés souvent avec la Tunisie. L'Algérie, c'est un beau pays de handball, hein. J'aime beaucoup ça, les gens sont assez passionnés. Je pense qu'il y a quand même pas mal d'ingrédients qui font que je peux me faire plaisir, comme je me suis fait plaisir en Tunisie. Et puis la perspective d'entraîner une équipe nationale et de vivre des grandes compétitions comme des Coupes d'Afrique ou des Championnats du Monde, c'est très séduisant, donc je n'ai pas hésité très longtemps.
La situation politique actuelle en Algérie n'a pas été un frein ?
Il est bien évident que j'ai un petit peu surveillé ce qui se passait, mais quand je vois que tous ces mouvements de foule se passent sans incident, quand j'entends les discours qui disent que l'Algérie veut montrer une bonne image de sa jeunesse et que mon nouveau président de fédération m'a rassuré à ce niveau par le discours du nouveau ministre qui dit que le sport peut être un vecteur de communication sur la jeunesse algérienne dynamique. Tout ça, c'est des discours qui m'ont plu. Et de toute façon, quand on va à l'étranger, il y a une part d'inconnu, une petite part de risque. Je l'ai déjà prise, ça va être la troisième fois. Et ça me fait pas peur. Voilà, j'ai envie de vivre l'aventure et je suis motivé.
L'Algérie a un petit peu disparu des radars, hein, il faut bien le dire, depuis son titre en 2014. Elle était absente des deux derniers mondiaux. La CAN 2018 n'a pas franchement été une réussite non plus. C'est une sélection en jachère. 6 mois pour tenter de remettre cette équipe à flot, c'est pas un peu court ?
L'avenir nous le dira, mais je crois pas, parce que le potentiel, il est là. Les joueurs, l'ossature, je les connais. Le talent, ils l'ont. Je crois tout simplement qu'il faut que cette équipe se remette au travail. Elle a déjà travaillé dans le passé pour accéder à des finales de Coupe d'Afrique, par exemple, hein, puisqu'en 2012, avec la Tunisie, je les avais battus. Et en 2014, ils avaient pris leur revanche. Il y a beaucoup de joueurs qui sont toujours là. Donc le potentiel est là, je crois. Il faut remettre la machine en marche. J'ai proposé un programme de stage qui est assez conséquent. Je veux croire que ça sera suffisant pour se qualifier pour le prochain mondial.
Sur quoi vous allez vous baser pour démarrer cette relance du hand algérien ? Sur les clubs locaux et peut-être au fur et à mesure revoir un peu les binationaux ?
En fait, je vais commencer par des stages avec les joueurs qui évoluent en Algérie au mois d'août. Hein, bon là, il y aura 2 stages de 9 jours pour faire connaissance avec ces joueurs, pour donner des bases de travail, leur présenter mes principes de jeu, faire connaissance avec eux, voir leur réel potentiel. Et puis après, il faudra raccrocher à ce wagon-là des joueurs qui évoluent à l'étranger, notamment en France. Alors certains, je les connais déjà. D'autres, je vais peut-être les découvrir plus tard, parce qu'il y a des binationaux qui se sont manifestés aussi. Mais bon, voilà, j'ai pas d'a priori sur personne. La fédération algérienne ne m'interdit rien. Mais maintenant, une place en équipe nationale, il faut la gagner. Un binational ou joueur de club en Algérie, c'est les meilleurs qui joueront.
Le tout étant peut-être de remotiver les plus anciens, je pense notamment comme ça à Kader Rahim qui était un peu en froid avec la sélection depuis la CAN 2018. Il y a d'autres joueurs comme ça que vous souhaitez faire revenir tout simplement parce qu'ils avaient été en froid.
Ces joueurs-là m'ont déjà contacté pour me dire qu'ils étaient prêts à revenir. Donc voilà, je ne vais pas avoir besoin de les convaincre. Hein. C'est des garçons qui portent le maillot de l'équipe nationale avec beaucoup de fierté. Je ne sais pas pourquoi exactement ils avaient quitté cette sélection. Des problèmes relationnels certainement avec le staff, voilà, mais ils n'avaient pas envie de rester sur cette impression. Et si ma venue, ça sert à ramener les meilleurs, ça sera déjà un point positif.
L'objectif donc prioritaire, c'est la CAN 2020 et donc cette qualification, pourquoi pas déjà pour les Jeux Olympiques si vous y arrivez, mais surtout pour les Mondiaux 2021 avec donc 6 équipes africaines, ce qui facilite un peu la tâche.
Oui, ça donne un objectif réalisable. La dernière fois que l'Algérie a fait une Coupe d'Afrique, elle a terminé 6e. Elle a eu la sensation de faire un résultat pas terrible. Donc il faut qu'on monte dans la hiérarchie de toute façon, parce que l'Algérie, sa place, j'avais jamais vu aussi bas. Et j'espère, si on monte sur un podium de la prochaine CAN, l'objectif il sera largement atteint. Et je crois que tout le monde sera content.
Alain Porte, le nouveau sélectionneur de l'Algérie, la CAN masculine 2020, ce sera à la mi-janvier. 2 infos en bref avant de se séparer. D'abord, la qualification de Rafael Nadal pour la finale du Masters 1000 de Rome. L'Espagnol a battu en demi le grec Stefanos Tsitsipas 6-3, 6-4, en s'offrant au passage une petite revanche sur son adversaire qui lui avait barré l'accès à la finale du tournoi de Madrid. En finale, il retrouvera Novak Djokovic, tombeur de l'Argentin Schwartzman 6-3, 6-7, 6-3, et puis la victoire au sprint de l'Australien Caleb Ewan à l'issue de la 8e étape du Tour d'Italie. Il a devancé l'Italien Elia Viviani et l'Allemand Pascal Ackermann. Le maillot rose est toujours italien, celui de Valerio Conti. Mondial Sport, c'est terminé pour ce soir. Merci à Fabrice Violet pour la réalisation. Dans un instant, 24h en France avec Loïc Bussière. Bonne soirée.